Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits et d'opérations, de récits et de vie militaire. Aujourd'hui encore avec Matt, ancien premier maître dans les commandos marines. Bonjour Matt.
Bonjour.
Aujourd'hui, pour une histoire, donc les auditeurs se souviendront peut-être du Mali et de cette première entrée au Mali. Aujourd'hui, peut-être pour une histoire plus dans l'idée qu'on se fait habituellement des commandos marines et de leur mission, destination exotique aussi, mais différemment, où c'est donc, vous m'avez dit, une histoire aux Seychelles.
Exactement, oui.
En 2009. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on en... On disait juste avant, je ne savais pas que les militaires français avaient une grande présence aux Seychelles. Mais donc, qu'est-ce que la France vous a envoyé faire aux Seychelles, à part peut-être bronzer et voir du pays?
Et ben, en fait, la France avait besoin de sécuriser les taunis français face à une menace qui était la piraterie au large des côtes somaliennes. Parce qu'en partant des Seychelles... Donc les thoniers français montaient dans des eaux internationales, du coup, et en face de la Somalie. Et les Somaliens attaquaient très souvent ces thoniers. Et voilà, il y a eu des histoires, il y a eu même des films, notamment avec Tom Hanks. En fait, c'était ce sujet-là.
Captain Phillips.
Exactement.
Mais on sait que, d'une manière générale, il y a eu des attaques de pirates somaliens, il y a eu le moment du Ponan, une prise d'otage... Je crois que c'était en 2005, 2007.
Oui,
2007, je pense. Ouais. Mais donc, c'était tout ce qui passait par là était une proie possible, les pétroliers, les porte-containers, et donc aussi apparemment
les
thoniers français.
Les thoniers français, c'est des bateaux qui font à peu près 30 mètres de long, il y a environ 30 civils dessus. Et voilà, et moi je suis parti en 2009, juste après mon chef d'équipe commando. Mon chef de groupe Alex m'a confié. Ces deux équipes en tant que chef de détachement, c'est un petit poste, mais un poste quand même assez important parce qu'on a deux bateaux du coup à sécuriser. Donc moi j'avais une équipe de quatre personnels commando sur chaque bateau, donc ce qui était assez troublant pour nous d'être sur des bâtiments français. Donc les premiers jours c'est on essaye d'optimiser les espaces, on crée des affûts pour mettre nos armes dessus, on se crée des petits postes de combat parce qu'on sait que on peut être attaqué par des pirates. Donc
et à ce moment-là, c'est quoi le risque tel que vous... Enfin, c'est genre, il y en a tout le temps des attaques, ou ça arrive une fois tous les 36 du mois, donc on peut y aller doucement, quoi?
Bah, en fait, à cette époque-là, c'était la première, en 2009, et nous, on voit très bien que les capitaines de bateaux sont très stressés par ces multiples attaques. Donc je me souviens pas combien de fois par mois il y en avait, mais c'était assez souvent quand même. Et les 4 mois qu'on a fait aux Seychelles, il y a eu, moi j'ai eu 2 attaques et il y a eu en tout 5 attaques. Donc on va dire une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, il y avait une attaque.
Et ça se présentait comment, les attaques? Est-ce que c'est des dizaines de bateaux qui arrivent? Est-ce que c'est un gros bateau qui arrive? Enfin, je veux dire, c'était quoi? Qu'est-ce que vous surveillez? Vous étiez à l'affût de quoi?
Alors on a la chance sur les thoniers français, c'est en fait ils pêchent le thon. Et pour pêcher le thon, c'est simple, mais on regarde très loin et du coup ils ont des énormes jumelles et ils peuvent voir, je sais pas, plusieurs kilomètres. Et en fait, s'il y a des oiseaux, il y a des poissons, des petits poissons. Et s'il y a des petits poissons, il y a des gros, il y a les thons qui sont en dessous. Donc grâce à ces jumelles, nous, quand on était de quart, eh ben, on pouvait de temps en temps les prendre pour observer un éventuel pirogue. En fait, ça se représente comme ça, une attaque pirate. C'est une pirogue avec deux, trois moteurs derrière assez puissants. Et à l'intérieur, des bidons pour la survie des pirates somaliens. Parce qu'ils restaient peut-être des fois 3 semaines, 1 mois en mer. Et voilà, et puis au bout d'un moment, nous on surveillait ça. Des petites embarcations, souvent blanches, avec des gros moteurs derrière, quoi.
Et parce que c'est long, quoi, 3-4 semaines, c'est... Ouais. Enfin, je veux dire, c'est quoi, vous êtes sur le qui-vive en permanence ou c'est...
Alors on s'organise, on... Déjà, il y a une procédure nouvelle pour obliger les capitaines de bateaux à travailler ensemble, parce que c'est un petit peu la guerre là-bas. Hein. C'est chacun son bateau, chacun son poisson. Et du coup, il y a un dialogue qui est fait entre moi et les deux commandants de bord français. Donc, si on a une distance à ne pas dépasser entre les deux bateaux, donc c'est souvent à vue, on reste à vue. Et dès qu'il y a une possibilité d'attaque, et bah, tout de suite, on se resserre bord contre bord. Voilà.
Et c'est arrivé souvent, des alertes, en tout cas ?
Ouais, on a eu souvent d'alertes. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des bateaux qui sont simplement à la dérive, en pleine mer. Donc, les gars, ils étaient assez tendus, hein, les Français, les pêcheurs, ils étaient assez tendus, donc tout de suite, on était alertés. Et donc voilà, nous on s'organise sur le bateau, on fait du quart, donc on divise le temps par 4, par 6, et puis on tourne comme ça, de nuit comme de jour. De jour c'est un peu plus serein parce qu'il y a tous les pêcheurs sur le pont, mais de nuit c'est un petit peu plus délicat parce que le bateau est à l'arrêt, donc on est plus vulnérable, on met en place des barbelés, des choses, et on essaie de tourner au moins à 2 de nuit, donc c'est assez fatigant, assez stressant. Et pendant 4 semaines...
Et c'est quoi l'ambiance ? Enfin, je veux dire, c'est sympa d'être sur un tonnier avec...
Ouais, ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Les premières pêches sont sympas. Après, on tourne vite à la routine. Mais les premières pêches sont sympas parce que nous, en tant que commando, on découvre ce milieu de marins. C'est le matin, tout le monde mange ensemble. Une pêche éclate. Et puis bah, là, c'est le feu. On sent que la pêche, vraiment, ça... C'est le sport national sur le bateau, quoi. C'est des poissons qui peuvent faire la taille d'un frigo, hein. Donc c'est des poissons qui font 2 mètres de haut.
Ils les pêchent comment ?
Ils les pêchent avec un grand filet qui fait 2 km de long. Et ils encerclent en fait le poisson. Donc le commandant, il met à fond les moteurs. Donc il crée un cercle et il libère le filet. Donc il fait 2 km de long et je crois qu'il fait 400 ou 500 mètres de profondeur. Donc, et il crée une nasse, il ferme en dessous, quand ça arrive tout en bas, il ferme, et du coup le poisson est encerclé, et emprisonné dans ce filet, et tout doucement, en l'espace de 2 heures, le filet est remonté, et du coup la nasse se resserre, et le poisson bah, apparaît, et ça peut aller monter jusqu'à 50 tonnes ou 60 tonnes de poisson en un seul coup de filet. Donc, c'est des milliers d'euros, quoi. On ne se rend pas compte, mais... C'est colossal.
Des millions, même.
Oui, c'est au bout de 4 semaines, on a dans les soutes des centaines de milliers, même des millions d'euros à donner ouais, au port. C'est incroyable.
Et donc, il y a la pêche, c'est sympa.
Voilà.
Et les pirates,
évidemment. Et du coup, voilà, un jour, c'était en fin de matinée. Moi, je suis dans ma cabine en train de rendre compte, de faire mes comptes rendus sur Internet. Et de là, bah, y a l'alerte qui est donnée. Donc, bah, on s'habille comme on peut. Moi, j'étais en short, basket, et puis bah, on s'équipe, comme on sait le faire. Et là, bah, on sent tout de suite que tout le monde est stressé à bord. Moi, je sors de ma cabine et j'ai la sensation que les pirates sont dans le bateau, en fait. Parce que les Seychellois, les Français sont complètement paniqués, ça crie. J'en crois certains qui pleurent. Ils sont vraiment au bout du rouleau, quoi. Et en fait, je monte tout de suite en passerelle. Le commandant, lui, qui était assez serein, il me dit tout de suite la direction. Et là, ils sont à environ 1500 mètres de nous. Donc de là, je rappelle le deuxième bateau. Donc on fait une route convergente. On se rapproche vraiment à 100 mètres l'un de l'autre. C'est très, très, très proche. Et on fait face à la mer. face au vent et face aux vagues. Comme ça, c'est plus compliqué pour les pirates de nous rejoindre, en fait.
Il y avait de la mer ce jour-là ?
Pas beaucoup, c'est environ une mer 2, on appelle ça. Il y a des clapots, c'est des petites vagues d'un mètre, mais assez gros pour embêter les pirates pour nous suivre. Mais ils arrivent à nous suivre malgré tout grâce à leur moteur. Donc ils se rapprochent, et là on entame la procédure habituelle. Voilà, il y a des sons, il y a de la lumière qui est balancée, il y a des... Et puis je préviens les gars qu'on va faire comme ça. Donc dans ma procédure, en fait, j'avais demandé aux deux bateaux, au dernier moment, à un mot code bien précis, de faire un 90 degrés à droite pour se mettre en fait de flanc et pour permettre à nos armes qui étaient en sabord, hein, tout simplement, de faire face à l'ennemi, quoi.
Ah, c'est marrant, vous avez quand même reproduit exactement la guerre navale du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, c'est-à-dire vous avez essayé de faire une bordée, quoi.
Exactement, ouais, parce que, en fait, nous, on fait face à la mer, le pirate arrive par notre arrière, mais notre arrière, nous, on est masqué par un mât, on est masqué par le filet de pêche, c'est une montagne, hein, ce filet de pêche derrière. Donc, j'avais demandé au commandant s'il était d'accord, il m'a dit oui, bien évidemment. Donc voilà, on n'a pas inventé grand-chose, mais ça marche, en tout cas. On avait nos armes en affût avec les affûts qu'on avait construits pendant les quelques semaines au port.
Et d'ailleurs, les armes, c'est quoi ? C'est des fusils longue distance de précision ou c'est au
contraire ? Non, à l'époque, c'était des ANF1, c'était des FAMAS, c'était... ça s'arrêtait là, hein, je me souviens plus.
Vous n'avez pas des gros calibres ?
C'était vraiment... Non, voilà, c'était de la 5,56 et de la ANF1, de la 7,62. Moi, je me rappelle, j'avais mon FAMAS et j'avais mis une Trigicon dessus. Donc une Trigicon, c'est un système qui était à l'époque sur les M16 là, des Américains. Donc on avait récupéré ça, je l'avais mis sur mon FAMAS.
Et ça servait à quoi ?
Ça servait à voir un petit peu plus loin. Il y avait un petit grossissement qui était assez agréable pour faire un meilleur tir. Donc voilà, l'ennemi est à 1000 mètres, il se rapproche, on fait notre procédure. Et puis bon, on se rend compte qu'ils sont déterminés, ils veulent vraiment... ils veulent vraiment prendre le bateau. Avec les jumelles, je m'aperçois vraiment que les gars sont armés, donc ils sont 5. Ils sont 5 à l'intérieur, ils sont armés, il n'y a qu'un seul bateau, et dont un, il a un lance-roquette RPG sur l'épaule. Donc c'est assez particulier, parce qu'il galère avec les vagues, mais il se rapproche. Donc ça dure, cette chasse-là, elle dure bien 30 minutes, le temps qu'ils viennent à environ 500 mètres de notre position. Donc là, je demande à mes gars de faire un tir de sommation.
Ils avaient déjà tiré ? Enfin, qui tire en premier ?
C'est nous. On fait un tir de sommation. Donc on tire à droite ou à gauche de l'ennemi, hein, pour leur dire « Ok, il y a une présence armée à bord des bateaux. » Parce qu'eux, à 500 mètres, ils sont incapables de dire si le bateau est armé. Donc et ils ne le savent pas parce qu'on est les premiers, en fait. C'est la première fois qu'il y a des militaires français sur les thoniers français. Donc pour eux, c'est gagné, en fait. Pour eux, ils vont y arriver. Et la seule défense qu'avaient à l'époque les pêcheurs, c'était les bouts de bois, c'était des plombs, c'était des choses comme ça, quoi, qui pouvaient leur lancer. Mais donc là, tout de suite, on...
Le plomb contre lance-roquette, c'est pas ouais, la bonne situation.
Non, c'est pas cool. Des poulies, vous savez, les grosses poulies métalliques. Là,
ça fait mal, hein, c'est sûr.
Ça fait mal, mais c'est déjà trop tard. Le pirate est sur le bord. Enfin voilà, c'est...
Donc vous faites un tir de sommation ?
On fait un tir de sommation qui... En fait, le but, c'est de faire des gerbes d'eau pour que les pirates puissent les voir. Je ne sais pas s'ils les entendent à 500 mètres, je pense, oui. Mais bon, avec le bruit des moteurs, etc., ça va vite. Donc on le fait plusieurs fois, et malgré tout, ils continuent. Donc ils arrivent à 400, 300 mètres de notre position. Où là, j'attends, je suis à la radio, je sens que tout le monde stresse un petit peu... C'est une première pour beaucoup.
Vos mecs, vos hommes, tout le monde était aguerri, avait l'épreuve du feu
ou... Non. Non. Non, non, moi le premier, c'était la première fois qu'on tirait sur quelqu'un. Okay. C'était la première fois pour les gars, c'était pareil, c'était la première fois qu'on voyait l'ennemi, hein, le vrai avec des calaches et puis des RPG-7. Et voilà, c'est maintenant, c'est notre jour, il va falloir qu'on réponde. Mais on se sentait vraiment assez serein parce que voilà. On était entraînés là-dessus. Avant de partir en mission, on a une phase d'entraînement, hein, donc on répète souvent cette procédure. Et voilà, ils arrivent, ils sont à 400 mètres. Moi, je dis aux gars, tenez bon, tenez bon. Donc là, on répète les tirs de sommation. On laisse la chance à l'ennemi de pouvoir arrêter ses moteurs et faire demi-tour. Mais malgré tout, et malheureusement pour eux, ils ont décidé d'y aller. Donc moi, j'ai attendu vraiment d'être à environ à 250 mètres, 300 mètres, où là, je libère, pour ainsi dire, les gars qui voulaient vraiment en découdre par un mot code à la radio. Ok, ouverture du feu, neutraliser l'ennemi.
Donc là, c'est le moment du 90 degrés.
Voilà, donc à ce moment-là, moi, je suis en passerelle avec le commandant et je fais des allers-retours sur le pont qui est à 15 mètres de là. Hein, c'est très rapide et je suis en liaison radio avec l'autre bateau. Et à ce moment-là, moi, je suis à droite, sur le bateau de droite, et on fait un 90 degrés à droite. Du coup, je suis le leader et je demande au bateau de me suivre. Donc, il s'exécute. Et puis, bah, là, une fois qu'on est perpendiculaire, j'ai à peine eu le temps de dire feu, que bah, l'ennemi était assez proche. Et là, on a pu faire un tir précis sur l'ennemi. Et tout de suite, on a neutralisé la menace, quoi. Voilà. Ça va très vite, ça dure, le tir il dure on va dire 15 secondes, donc ça tire, j'avais désigné quelqu'un pour les moteurs, j'avais désigné quelqu'un pour les gens armés quoi, donc tout de suite le bateau se stoppe, il y a du feu derrière, les moteurs sont un petit peu, il y a de la fumée quoi. Et bah voilà, on voit plus personne sur le bateau, donc on se dit que soit ils sont en train de se planquer, soit ils sont neutralisés. Le commandant du bateau veut y aller. Il me dit « Allez, on y va, on fonce dessus, je vais les couper en deux avec mon bateau », parce que c'est des bateaux qui font 30-35 mètres de long, donc c'est des bateaux robustes, hein, et puis une pirogue qui fait 10 mètres de long. Donc moi, je décide de lui dire « Non, on n'y va pas », parce que autant les mecs, ils sont juste à côté, ils font semblant d'être morts, et puis... Ils vont nous tirer dessus, donc je décide de reprendre face mer, et puis bah là, et de vraiment garder les armes, du coup deux armes juste en haut des filets, les mecs ils ont grimpé en haut des filets, et puis ils se sont postés là-haut, et là ils m'ont rendu compte que voilà, il n'y a plus personne qui bougeait, et puis bah nous on a repris la mer, et moi mon travail à ce moment-là c'est de rendre compte aux autorités qui sont aux Seychelles, au port, qu'on s'est fait attaquer, et comment ça s'est passé, etc.
Et c'est tout bête, mais vous les laissez là ? Enfin, il n'y a pas de, voilà, pas d'obligation ou de, vous êtes supposé les récupérer pour les...
Je l'ai demandé aux autorités aux Seychelles. Hein, donc là, on a nos gradés qui sont là-bas, qui eux ont une veille H24. Et ils m'ont dit non, vous tracez. Et puis il y a toute une procédure après pour les récupérer du renseignement ou d'aller récupérer les corps. Enfin voilà. En tous les cas, nous, on devait... prioriser la sécurité du thonier français, et parce qu'on savait pas derrière si souvent il y a des mothers, c'est des sisters et des mothers. Les sisters c'est les petites embarcations pirates et les mothers c'est les grosses, et souvent bah ils sont en liaison radio aussi, donc on voulait pas rester en place longtemps pour craindre une autre attaque et beaucoup plus musclée. Voilà, donc on a préféré partir. Le commandement m'a dit ok, vous dégagez de là le plus vite possible. Et on a continué la pêche.
Ouais.
Le jour
les
d'après.
Affaires sont les affaires.
Donc on a le commandant de bord, il était pas très choqué. Il était pour lui c'était on a été remercié. Tout le monde était super content. Grâce à vous, on va pouvoir revoir notre famille, etc. Et le lendemain, la pêche a repris. Comme à son habitude, et nous, on avait réalisé notre métier, et on était super fiers et super contents d'avoir pu sauver ces gens-là, quoi.
Et ça s'est reproduit après ? Vous en avez eu d'autres ?
Ouais, ça s'est reproduit. Donc moi, j'en ai subi une deuxième, beaucoup plus courte. Ça s'est arrêté au tir de sommation. Là, je pense que l'info était passée. Donc c'était sur la marée suivante, c'était quelques semaines après. Mais en fait, on était plusieurs équipes sur plusieurs bateaux. Il y avait environ une douzaine de bateaux, donc avec une équipe sur chaque. Et il y a une équipe, oui, où là, ça s'est, ils sont un petit peu fait surprendre et le combat était vraiment rapproché, environ entre 50 et 100 mètres. Où là, il y a le commandant, il est rentré dans une des pirogues, il a fait demi-tour. Enfin voilà, c'était assez costaud celle-ci, mais j'y étais pas. C'était, on m'a raconté, mais pendant ces 4 mois. enfin c'est 5 mois et demi de départ. Pendant ces 5 mois et demi, on a eu 5 attaques.
Quoi, les Seychelles, c'est pas aussi reposant qu'on croirait.
Voilà, mais c'était sur les eaux internationales et en face de la Somalie. Mais c'est vrai que c'était agréable d'aller aux Seychelles pour se reposer. On avait le all inclusive dans un hôtel assez sympa. Mais en fait, on faisait 4 semaines de mer et on venait à l'hôtel pendant une semaine, le temps que le bateau, lui, vide ses soutes. Et voilà, le business, c'est le business, comme vous avez dit. Voilà, et on repartait sur d'autres bateaux.
Merci beaucoup, Matt.
Voilà. Merci à vous.
Donc, je rappelle que toutes ces histoires, enfin pas toutes, mais beaucoup d'histoires sont dans le livre que vous avez publié aux éditions Pierre de Taillac, Objectif Force Spéciale. Merci beaucoup.
Merci.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.